notre méditation, nous nous retrouvons dans l'intelligence, le cœur, l'étonnement de Sainte-Thérèse de l'enfant Jésus. Tradere et rénovare, tradition, rénovation. Hein? C'est vrai, au fond, on se trouve entre Marthe et puis le Père Larmajon, quoi. Père Larmajon, c'est la tradition. Elle a reçu du Père Larmajon la tradition. Et Marthe, au fond, la tradition, les racines de Thérèse, c'est le Père Larmajon. C'est la doctrine de l'Église. Que, c'est vrai, allez, au 19e siècle, fin 19e, les prédicateurs n'avaient aucune crainte parce qu'il y a eu une période où il n'y avait aucune persécution contre la doctrine. Il y a eu une période merveilleuse. C'est une grâce qui a suivi la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale. Alors, les prêtres pouvaient enseigner la doctrine sur les fins dernières librement. Ils n'étaient pas persécutés de l'intérieur ni de l'extérieur. Et du coup, Père Larmajon, c'est une période sacrée, quoi. C'est une période sainte. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, c'est très rare. En tout cas, aujourd'hui, c'est terminé. Hein. Sauf dans les foyers de charité. Si on prend de grandes précautions, et si on supplie ceux qui sont là de faire confiance, et de garder le secret de famille. La tradition de Thérèse, c'est le Père Larmajon, et Marthe, c'est le renouvellement de Thérèse. C'est beau, ça. Tradition et tradere, la rénovation. Vous savez bien que Marthe, c'est le renouvellement de Thérèse. Vous savez bien que quand elle est décédée, elle va faire sa vie, etc. Bon, elle est morte à l'âge de 24, je ne sais plus exactement, 24 ans, quelque chose comme ça. Marthe, elle s'est retrouvée devant la véhémente attraction de Jésus devant elle, remplie de gloire. Et tandis qu'elle pénétrait dans son cœur pour rentrer dans la vision béatifique immédiatement, le Seigneur l'a arrêté. Il lui a montré Thérèse de l'enfant Jésus. Il y avait l'Immaculée aussi. Il lui a dit, acceptes-tu d'être à nouveau moi-même sur la croix pour que je puisse revenir et donner à l'Église la grâce finale. Est-ce que tu veux prolonger la mission de Thérèse? Alors, petite Marthe, oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et ça, c'était le deuxième, le troisième, oui éternel de Marthe. Ah, évidemment, il y a que le haut du cou. C'est réanimé. C'est tout. Le reste, c'était mort. Pendant 57 ans. Je crois. Pas une goutte d'eau. Juste l'Eucharistie. Quand le Père approchait, je voudrais demander au Père Ricard, donnant l'Eucharistie, Jésus courait vers elle, tellement elle avait soif du retour du Christ. Et la manière dont les chrétiens des derniers temps vivront de l'Eucharistie, ce sera comme ça. Une telle soif de l'Eucharistie que nous communions comme ça. Ouais. Et quand les chrétiens des derniers temps, c'est-à-dire dans quelques semaines, auront cette grâce nouvelle eh bien, il y aura cette communion extraordinaire. À ce moment-là, le Christ pourra revenir. Le reste, on s'en fout. C'est du temps perdu. Des bagarres stériles. Réincarnation, parce qu'on peut le dire, du cœur de Jésus ouvert sur la croix, dans le tombeau, enveloppé dans un suaire qui était le corps de Marthe et qui était trempé dans le visage ressuscité de notre Seigneur. Le visage de l'Église nouvelle que Dieu est en train de créer. Pour écraser la tête de Lucifer et l'Antéchrist et prendre le monde par-dessous. À lire. Pour Armageon, une voix plus audible, n'est-ce pas? Alors, mais oui, nous avons déjà vu à quel point quand on rentre au ciel, jusqu'à maintenant, de Armageon, on voit Thérèse qui écoute, qui découvre que Dieu a une rage, une colère. Il ne se rassasie pas de rendre infiniment plus que ce qu'on lui a donné, comme désir, comme acte. Oh Seigneur, le ciel, acte d'espérance. J'ai fait 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois, un petit peu, et lui, il ne se rassasie pas. À mon tour maintenant, à mon tour maintenant. Et où donc les saints m'ont fait eux-mêmes, puis-je répondre autrement qu'en me donnant moi-même sans restriction et sans mesure? Et si je mets entre leurs mains le sceptre de la création, si je les investis des torrents de ma lumière, c'est beaucoup, c'est aller beaucoup plus loin que ne se seraient jamais élevés leurs sentiments et leurs espérances. Mais ce n'est pas le premier, le moindre effort de mon cœur, je leur dois plus que le paradis, plus que les trésors de ma science, plus que tout ce qui leur redésirait dans leurs espérances. Même les plus saintes et les plus ardentes, je leur dois ma vie, ma nature, ma substance éternelle et infinie. Ainsi je fais entrer dans ma maison mes serviteurs et mes amis, ainsi je les console, si je les fais tressaillir en les pressant dans les étreintes de ma charité, c'est étancher surabondamment leur soif et leur désir, et tout ce qui m'est requis pour le repos parfait de leur cœur, mais c'est insuffisant, trop insuffisant pour mon cœur divin, pour son contentement, l'étanchement et la satisfaction parfaite de mon amour insatiable, de se donner. Il faut que je sois l'âme de leur âme. Oh, oh, que je suis bien la petite âme de toutes les âmes. La petite âme embrasée, dévorée d'amour. C'est Marthe. Oh, que je suis bien la petite âme de toutes les âmes. La petite âme embrasée, dévorée d'amour pour les pauvres. Mes petits, ceux qui souffrent, affligés, faibles, désespérés, et surtout pour les chers pécheurs. C'est extraordinaire. Non, mon Dieu. Il faut que je sois l'âme de leur âme, que je les pénètre et les imbibe de ma divinité. Dans la plénitude avec laquelle je suis moi-même imbibé de la divinité de mon Père, et la divinité intégrale et surabondante de l'Esprit Saint, comme le feu imbibe le fer, que nous montrons à leur esprit sans nuage, sans voile, sans intermédiaire, directement, je m'unis à eux par un face-à-face, sans aucune distance, et que ma gloire les illumine, et qu'elles transpirent et rayonnent par toutes les pores de leur être, toutes les pores. Afin que me connaissent comme je les connais, ils deviennent des dieux eux-mêmes. Oui. Alors, ici, la langue humaine fait défaut. L'intelligence est éblouie. Elle succombe. La doctrine de l'Église, lorsqu'elle exprime ceci, est-elle un mysticisme? C'est mystico-dingo de dire ça? L'hymne et les espérances que d'aussi sublimes perspectives suscitent au fond de nos cœurs sont-ils une poésie, un songe, ou bien la vision de Dieu dans les termes que nous venons de l'énoncer est-elle une vérité, un fait certain? Force nous est de recourir à l'argumentation de la doctrine infaillible et de faire trêve un instant à nos chambres et à nos transports. Il est utile de raffermir les âmes ébranlées et incertaines en traitant maintenant ce sujet selon son importance et en combattant toutes les objections que le naturalisme et la froide raison cherchent à soulever. Alors dira-t-on la créature qui est la nôtre, même soutenue, renouvelée, transformée par la grâce et par la gloire, serait-elle susceptible de soutenir aussi étroitement à Dieu, au point de le voir face à face, comme il se voit lui-même, dans toute son étendue? Oh, mais selon quel mode? Et en voyant Dieu tel qu'il est, le connaîtrons-nous vraiment, comme vous dites, intégralement et sans aucune limitation? Voilà trois grandes questions. Est bien grave que la doctrine de la révélation a résolu pour nous. Oh, c'est intéressant, hein? Je ne peux pas tout vous lire parce que si vous comprenez, il y a 300 pages. Il faut que je saute. Eh bien, il est de foi. Je saute quand même, mais je prends quelques passages. Il est de foi. que l'homme verra un jour Dieu tel qu'il est, dans les clartés de sa nature intime et de son essence substantielle. Si quelqu'un m'aime, a dit Jésus-Christ, je l'aimerai, il sera aimé de mon Père et je me manifesterai moi-même en personne à lui. En personne, c'est Dieu. Et Dieu dit à Abraham, je serai moi-même ta grande récompense. La vision de Dieu telle qu'elle est énoncée par saint Paul n'a cessé d'être l'objet des désirs et de l'attente de tous les patriarches et de tous les prophètes. Attente que Dieu ne saurait frustrer sans déroger à sa sagesse, à ses promesses, et à sa justice, et à sa parole. Donnez toute âme pure de péché, dit le Concile de Florence. Toute âme qui n'a pas l'ombre d'un péché en elle est dans l'instant même admise dans le ciel. On voit Dieu dans l'intimité intégrale de chacune des trois personnes de la très sainte Trinité, telles qu'elles sont et telles que la Trinité est, et ceci selon la mesure de ses mérites, l'une d'une manière parfaite et l'autre d'une manière encore plus parfaite. C'est beau ça. Le Saint Concile ajoute, cette vision de Dieu ne résulte aucunement des forces de la nature humaine, ni de celle de la grâce. C'est pas à cause de la grâce, ni à cause de la nature humaine. Il n'y aura plus de grâce au ciel. Ah, il va y avoir quoi alors ? La grâce, c'est quelque chose de créé. Le sacrement, la grâce sacramentelle, c'est quelque chose de créé. C'est dans le temps. Au ciel, il n'y a plus de sacrement. Il n'y a plus d'Eucharistie. Il n'y a plus de transsubstantiation. Il n'y a plus que la substantiation. C'est tout. Il n'y a plus de transactuation, il n'y a plus que de l'actuation. Il n'y a plus de transformation, il n'y a plus que de cette continuelle. Je vais juste en mots, vite, le Concile. Cette vision de Dieu ne résulte aucunement des forces de la nature, elle ne correspond à aucun désir non plus, et aucune exigence de notre cœur. En dehors de la révélation que nous en a fait le Christ et la Sainte Écriture et l'Église, l'esprit humain n'aurait même pas pu en imaginer ni soupçonner quoi que ce soit. Ce n'est pas monté une seule fois dans le corps de l'homme, mais qu'il corrompt ni sa chantite. La vie éternelle est le plus haut miracle, le mystère le plus sublime. Elle est la fleur épanouie, ou mieux encore le fruit de la grâce, le fruit de la grâce. Dont par la vertu de l'Esprit Saint, le Verbe incarné plante le germe et la racine au centre de notre humanité intégrée en Dieu. Et pour que nous puissions parvenir à la vie éternelle, il est nécessaire que Dieu imprime à notre esprit une nouvelle réalité. Une nouvelle forme et lui surajoute une nouvelle puissance et une nouvelle faculté. C'est extraordinaire. On est une coupe, si vous voulez. C'est un peu comme ça que je peux le représenter. Il y a plein de représentations. On est une espèce de coupe débordant d'amour au ciel, si on veut. Mais aussitôt au ciel, on surajoute sur la coupe une capacité infinie. On la vise sur la coupe, oui. On vise sur la coupe une capacité infinie qui illumine tout un type, qui illumine, qui fait voir tout, qui est une capacité qui n'est pas humaine, qui n'est pas de la grâce, qui est Dieu créé à la dimension de notre gloire, de notre vision, de la vision qu'il a lui-même à travers nous, de lui-même. On va y revenir à ça. C'est très beau, je trouve. On va y revenir. Ne vous inquiétez pas. Et lui, je suis sûr qu'il va y revenir aussi. Ne vous inquiétez pas aussi. Il y a donc ainsi, ajoutons en passant, que la vision de Dieu n'étant pas du tout connaturelle à l'homme, la privation de cette nouvelle faculté, de cette nouvelle puissance surajoutée qui en est faite, si on en est privé, n'ajoute aucune douleur à celui qui ne la ressent pas. On n'en a aucune idée, aucun désir. Et c'est pour ça qu'un innocent, par exemple, mort sans baptême, à l'âge de 2 ans, par exemple, n'est pas baptisé. Il va au ciel, mais il ne rentre pas dans la gloire. Il vit en Dieu, mais il est rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Comblé de Dieu. Mais il ne voit pas Dieu. Il le voit. Il en est comblé. Mais il le voit. Tu peux, si vous voulez, quand on arrive au bord de la mer, on voit l'océan. Il voit Dieu, il en est comblé. Mais il n'a pas une capacité d'être abreuvé par tous les torrents intérieurs et tous les trésors intérieurs de l'océan. Il n'en a pas envie. Il est comblé. Mais au ciel, c'est autre chose. C'est incomparablement une béatitude divine qui n'est pas celle-là. Bon, je vais passer là-dessus. L'homme donc verra Dieu face à face. Oui, donc vous voyez, cette histoire, cette doctrine est précieuse. Hein. Vous savez, vous connaissez cette doctrine quand même. Hein. Nul ne pénètre au ciel. La nécessité du baptême pour le salut. Si on a pas reçu le baptême, il faut au moins avoir la foi. Même très élémentaire. Parce que c'est la foi hein, qui justifie. Hein. C'est pas le baptême. L'épître aux Romains, c'est la foi qui justifie. Être justifié par la foi, ça veut dire recevoir la grâce, être libéré du péché originel. Un acte de foi surnaturel, ça y est. On est justifié. C'est la foi qui justifie. Alors, si on a la foi, on veut pénétrer dans le corps mort et ressuscité du Christ. Du coup, on prend le baptême, c'est d'accord. Mais disons qu'ils ont la foi, puis qu'ils ne reçoivent pas le baptême, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc le baptême n'est pas nécessaire. Mais la foi, oui. Mais si je n'ai pas pu faire un acte de foi et que je n'ai pas reçu le baptême, je suis un tout petit innocent, j'ai 1 an, eh bien, je suis comblé de Dieu. C'est sûr. Et je ne souffre pas. Je suis comblé de Dieu, mais je ne souffre pas de ce manque. Puisque au ciel, d'un seul coup, je suis comblé, et d'un seul coup, je reçois une capacité quasiment infiniment plus grande d'amour, de bonheur, de béatitude, de jouissance. Puisqu'elle est à hauteur de la jouissance de Dieu. De la jouissance de Dieu. C'est fou, quoi. C'est une espèce de douille, si vous voulez. Alors, je rentre au ciel, ça fait une petite étincelle, je suis comblé. Et puis, Dieu se rajoute une ampoule qui illumine tous les espaces intérieurs de Dieu. Il surajoute quelque chose. je suis plus que comblé, c'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est Dieu qui est comblé en moi. Et moi à la mesure de Dieu, et non plus à la mesure de mes béatitudes les plus grandes, les plus inimaginables. Il est certain encore que nous ne le verrons pas. Alors l'homme verra donc Dieu face à face. Mais par quel mode s'opérera cette vision? Il est de foi que nous ne le verrons pas par une représentation. Il est de foi que nous ne le verrons pas non plus par une image formée dans nos esprits. On ne verra pas Dieu par une image formée dans nos esprits. J'espère que vous le saviez. Hein? Ça, c'est pour les mystico-dingos, ça. Hein? Il est aussi de foi que nous ne nous élèverons pas à sa connaissance par le secours de l'intelligence surélevée par la lumière intérieure, ni par voie de démonstration, bien sûr, à la manière dont ici-bas nous saisissons les vérités les plus élevées. Il est certain aussi, et c'est deux fois, c'est-à-dire que c'est la foi explicite de l'Église, que nous ne le verrons pas partiellement et avec diminution, comme des objets éloignés dont nous ne découvrons pas toutes les faces, et que nous n'apercevons qu'imparfaitement et par certains côtés seulement. Ah. Dieu ne saurait être vu de cette sorte. Il est un être simple, il n'a aucune partie. Donc on ne peut pas le voir dans une de ses parties. Vous n'aviez pas pensé à ça. Il est infiniment simple, donc on ne peut pas le voir par une de ses parties. Il n'y a aucune composition en Dieu. Quand vous touchez quelqu'un et que vous voyez une partie, c'est qu'il y a une composition en lui. En Dieu, il n'y a aucune composition. Il est infiniment simple. Saint François d'Assise. Il a des torrents de doctrine là-dessus, Saint François d'Assise. C'est pour ça qu'il aime bien voir les parties de la création, pour comprendre à quel point il n'y a aucune partie en Dieu. Dieu est infiniment simple, c'est ce qui fait sa joie. Et d'ailleurs, c'est vrai. Il est certain donc que nous ne le verrons pas de cette manière. Et quand nous disons qu'il est présent, il est tout entier en effet. Par exemple, même dans la création, il est tout entier dans le brin d'herbe. Il est tout entier dans un brin d'atome. Et quand nous disons qu'il est présent dans tous les espaces, et dans chaque partie de notre univers, et dans tous les lieux, notre esprit s'abuse. Car Dieu, en effet, n'est dans aucun lieu. Mais en fait, ce sont tous les lieux, toutes les parties, tous les espaces, toutes les réalités, qui sont en lui. Il n'est dans aucun temps, mais son éternité consiste dans un instant indivisible où sont absorbés tous les instants, en un seul instant qui est le sien, infiniment simple. Il n'y a aucune composition de tous les instants en Dieu, un seul instant est. Et tous les instants y sont. C'est pour ça qu'il faut faire des actes, parce que c'est dans l'instant présent qu'on fait un acte. Et là, on est au ciel, on y est. C'est par des actes infiniment simples qu'on fait un acte d'adoration, infiniment simple qu'on fait un acte de foi, infiniment simple, mais on peut dire infiniment, puisque il nous plonge dans l'infini divin. Or, nous le verrons tel qu'il est, dans sa simplicité, dans la triple intimité de sa personne, et comme nous voyons le visage d'un homme ici-bas, face à face, directement. Cette vision s'effectuera par une impression immédiate de l'essence divine dans l'âme et à l'aide d'une lumière surnaturelle, surajoutée à notre nature, appelée Lumen Gloriae. Ah, faut le savoir par cœur. Lumière de gloire. Lumière de gloire. C'est l'ampoule. À l'intérieur de notre intelligence, à l'intérieur de nos yeux physiques, à l'intérieur de notre vision intérieure de l'âme, à l'intérieur de chacune de nos sensations, du sens du toucher, la lumière de gloire, qui est le regard que Dieu a qui lui permet de se voir lui-même à la manière divine, imbibera toutes les portes par lesquelles nous pouvons toucher une réalité ou la connaître ou la pénétrer et nous permettra de voir Dieu. Ça nous est surajouté. La lumière de gloire. La lumière de gloire. Et notre intelligence, si vous voulez, est capable de voir à ce moment. Notre intelligence avec nos yeux, avec toute notre... En ce moment, elle est capable de voir, voyez. Elle est capable de voir. Une espèce de phare qui est capable de voir. Elle est comme ça, notre intelligence. Alors, de l'intérieur, c'est le Père Emmanuel qui disait ça à Montmorin, vous savez. Le vieux Père Emmanuel, Père Ermite. Mais c'est pourtant facile. Notre intelligence, c'est un phare qui nous permet de voir. Un phare de voiture. Un phare. Et dès que tu mets un acte de foi, la lumière surnaturelle qui illumine le phare, et c'est comme un rayon laser qui traverse tous les espaces et tous les temps. Seulement la lumière surnaturelle de la foi. C'est un rayon laser qui traverse l'espace et le temps. Tous les lieux et tous les temps. Et la lumière de gloire, c'est pas un rayon laser, ça traverse tous les deux et tous les gens, tous les lieux et tous les temps. C'est la lumière de gloire qui permet à Dieu de se traverser lui-même dans sa propre connaissance. Éternellement, dans une simplicité absolue, une communication continuelle. Un effacement continuel de béatitude. Il expire. Il n'en peut plus de béatitude. Sans arrêt. Et de plus en plus intensément.
Ah, moi, je suis pas pressé d'y aller. Mais enfin, j'ai un peu hâte, quand même.
On est déjà, on l'a, acte d'espérance, ça y est, tu touches les mains, acte d'espérance, maintenant, dès que tu fais un acte d'espérance, tu élargis la capacité sur laquelle la lumière de gloire va se... À chaque fois que tu fais un acte d'espérance, tu élargis. Cette capacité divine, surnaturelle, purement personnelle de Dieu. Ça veut faire beaucoup d'actes d'espérance. Beaucoup d'actes d'amour. Oui, parce que c'est une chose qu'il faut savoir, ça aussi, attends que je vous en balance un peu, donc on y est. Mais parce que, ici sur la Terre, vous dites, mais c'est merveilleux, si je vais directement au ciel, non, c'est pas merveilleux. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que si je vis encore disons 150 ans, 153 ans, et que j'utilise tous les jours, et dans tous les jours j'utilise toutes les heures, et dans toutes les heures j'utilise toutes les minutes pour faire un acte de charité, pour faire une communion eucharistique, une communion mystique, une mise en présence de Dieu, un acte de charité fraternelle, un sourire intérieur à l'âme du prochain, une offrande pour être l'âme de mon ennemi. À chaque fois que je fais un de ces petits actes, à chaque fois, la grâce sanctifiante, la vie divine qui est en moi, augmente dans mon âme. Et l'acte suivant, elle augmente encore. Dans l'acte suivant, elle augmente encore. Dans l'acte suivant, elle s'intensifie encore. Il n'y a pas de cause diminuante en Dieu. La grâce sanctifiante ne peut pas diminuer. C'est impossible. La charité ne peut pas diminuer dans notre cœur surnaturel. C'est impossible. Le jour... Ah, si on fait un péché mortel, si je me roule avec la prostituée dans le fond de fossé, évidemment, c'est évident. À ce moment-là, je n'augmente pas la grâce sanctifiante. Mais je mets la grâce sanctifiante qui est dans mon âme au congélateur. Jusqu'à ce que je retrouve la grâce sanctifiante par le sacrement. Lorsque 10 ans plus tard, je me confesse, et que je retrouve le sacrement, il vient du congélateur, je retrouve l'état de charité fraternelle, d'amour de Dieu, et de grâce et de sainteté que j'avais laissé. Et comme je viens de me confesser, j'ai fait un acte supplémentaire, donc je me retrouve avec un état de sainteté beaucoup plus grand que celui que j'avais laissé en péchant. C'est beau, hein ? Lorsque je meurs, oui, ben parce que c'est ça la miséricorde de Dieu, c'est ça la grâce, c'est ça le Christ. C'est ça le Christ. C'est un petit peu dommage que pendant 10 ans, c'est pas augmenté, quoi. Ça, c'est un peu triste. C'est un peu idiot. Enfin, franchement, c'est un peu nul. C'est même très nul. Je suis lié à Dieu. Je coupe par le péché. Arraqué. La corde tombe. 10 ans après, je reviens. Le Seigneur prend les deux bouts de la corde, fait un nœud. Du coup, je suis plus proche. Mais à chaque fois que je fais un acte de foi, je tire sur la corde. Je suis plus proche. C'est fou, quoi. Et non seulement je suis plus proche, mais l'électricité est surabonde. Je passe de 5 volts à 20 volts, puis de 20 volts à 60, puis de 60 à 600, à l'acte suivant. C'est fou. Et le jour où je meurs, ce jour-là, la charité et la grâce, évidemment, disparaissent. Donc, la charité ne peut plus augmenter. C'est terminé. Éternellement, j'aimerai Dieu avec l'intensité d'amour que j'aurais eu à la fin de ma vie pour Dieu. Éternellement. C'est pour ça que il faut faire beaucoup d'actes. À chaque fois que je reçois l'Eucharistie, grâce, même si je le fais sans ferveur, à chaque fois que je reçois l'Eucharistie, il y a toujours une augmentation de la grâce dans mon âme. Même s'il y a des imperfections dans ma communion eucharistique, il y a toujours l'augmentation de la grâce dans mon âme. Mais si c'est fait avec une immense ferveur, je crois qu'on va... Heureusement que Dieu va nous donner la lumière de gloire, parce que arriver au ciel, on en mourrait. C'est épouvantable, cette augmentation de la grâce que j'ai eue à cette communion-là. J'explose, je suis disparu. Et non, vite, avant, il met la lumière de gloire. Ce que disait le Père Jean, c'est un autre ermite. Eh bien, ceux qui ne prient pas. Et Père Jean Mortaigne. Et bien ceux qui ne se préparent pas. Par eh bien la prière. Et en veillant. Eh bien, il y a certaines personnes que je connais et qui disent qu'ils suivent le Christ, et en vérité, eh bien ils ne le suivent pas vraiment. La preuve, eh bien, le soir, ils sont fatigués. Et devinez ce qu'ils font. Eh bien, je vous le fais en mille. Eh bien, ils vont dormir. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ a dit, eh bien, veillez et priez. Donc à nous de veiller. Il y a certaines personnes qui arrivent le soir épuisées par le travail. Et que font-ils? Ils disent, eh bien, je suis le Christ. Ils n'ont pas entendu sa parole. Ou ils l'ont entendu, mais ils font le contraire. La preuve, ils s'assiedent dans un fauteuil. Et ils regardent la télévision. Eh bien, quand le Christ reviendra, ceux qui veilleront seront pris. Et ceux qui n'auront pas suivi seront surpris.
Écoute, Jean. Je ne sais pas, mais je ne sais pas si j'ai trop réfuté d'exprimer les choses de cette manière. Mais personnellement, je préfère dire...
Vite, tout à l'heure, ma Jean. Alors, vite, excusez-moi. Vous voyez, c'est très beau, c'est ça, le domaine de gloire. Est-ce que vous comprenez ce que c'est que le domaine glorieux? Hein? Ça, il y a des passages dans la doctrine de l'Église. Des pages sur la nature de la lumène glorieuse, sur le mode dans lequel, avec lequel nous... Vous savez, on a une doctrine, c'est pas du tout obscur, hein. La vie éternelle, dit saint Paul, est comme un poids, un accablement. Les transports que la vision divine suscitera à travers cette lumière de gloire seront surabondés leur cœur des joies les plus inénarrables. Ce sera un torrent de délices et de volupté, la vie dans son inépuisable fécondité et la source même de tout bien et toute vie. Ce sera ainsi que parle encore saint Augustin comme une communication continuelle, éternelle, simple, intense et intense, toujours plus intense que Dieu fera de son propre cœur afin que nous puissions aimer et jouir. Le cœur de Dieu, c'est quoi? C'est l'Esprit Saint. N'oubliez jamais ça. Il y a deux battements, hein, diastole, systole dans Dieu. Donc, diastole, c'est le Père, systole, c'est le Fils, et le cœur, c'est l'Esprit Saint. Ça, c'est sûr. C'est l'unité des deux. C'est l'amour. Et oui, afin que nous puissions aimer et jouir avec toute l'énergie de l'amour et des joies de Dieu lui-même. La vie éternelle, dit saint Paul, est comme un poids, un accablement de tous les délices, de toutes les ivresses, de tous les transports, poids qui, ranimant l'homme au lieu de l'anéantir, renouvellera inépuisablement sa jeunesse divine, sa vigueur éternelle, inépuisablement. Elle est une source à jamais féconde, où l'âme boira à long trait la substance et la vie éternelle, et la vision elle-même, et Dieu lui-même. Elle est une noce où l'âme enlacera
s'éteindra, éteindra, s'écoulera délicieusement dans son Créateur, dans un embrassement éternel, inépuisablement amoureux, sans que jamais elle sente s'affaiblir le saisissement de ce jour où la première fois elle s'unit à lui et le pressa contre son sein. Ah, et pourtant, les saints qui voient Dieu face à face n'en auront pas la compréhension. Ah, ça me fait plaisir. C'est une invention de l'amour de Dieu aussi, ça. C'est pourquoi c'est encore plus fort qu'il fait ça, vous voyez. Car en effet, le concile de Latran enseigne ceci. Vous voyez, c'est subtil quand même. Hein? Dieu est incompréhensible pour tout être créé. Oui, nous le verrons, Dieu tel qu'il est, les uns plus intensément, les autres moins, suivant nos dispositions et l'intensité de notre sainteté, de notre charité. Et cependant, nous ne pourrions enseigner, selon la foi, que par exemple la Vierge Immaculée elle-même, qui voit Dieu plus clairement et plus parfaitement que tous les anges et tous les saints réunis, puisse parvenir à le voir et à le connaître dans une mesure adéquate à lui-même. Dieu est infini dans sa manière d'exister, et tout ce que l'on peut dire, c'est que Marie le voit tel qu'il est, tout entier, intégralement, et cependant elle ne le voit pas dans un autre sens qui est celui-ci, c'est que ce qu'elle parvient à découvrir intégralement et tout entier de ce qu'il est, de ses perfections, n'est rien auprès de ce que la personne et l'être substantiel de l'unique Trinité contemple elle-même dans la splendeur de son Verbe et en union de son amour avec l'Esprit Saint. C'est beau, ça. Mais c'est que je vois intégralement Dieu, face à face, tel qu'il se voit lui-même, directement. Et pourtant, quand je le vois face à face, intégralement, directement, tel qu'il se voit lui-même, dans son embrasement et éperdument, où tout s'efface, parce qu'il n'y a plus que lui qui... J'ai encore autre chose à voir de lui-même. J'ai tout le temps encore autre chose à voir de lui-même. Je n'épuise jamais, jamais, jamais. Il n'y a que Dieu lui-même qui s'épuise éternellement dans la vision de lui-même. Le Père s'épuise dans la vision du même, le Fils est épuisé dans la vision du Père, et comme ils sont épuisés tous les deux, ils disparaissent, et il n'y a plus que l'Esprit Saint. Mais nous ne disparaîtrons pas. C'est beau, hein? Moi, je suis content. Ainsi, la contemplation de Dieu, grâce à cette ruse d'amour de Dieu en se donnant lui-même, ne sera pas l'immobilité. Oui, parce que si on voyait Dieu lui-même, on serait là, on voit tout. Oh! Éternellement. Moi, ça me plaît pas. Ce serait très beau. C'est une communication continuelle. Continuelle. Un abîme de vision, de trésor, de béatitude qui me fait rentrer une porte sur Dieu, quoi. Qui me fait rentrer dans une pièce immense. Cette pièce immense s'ouvre sur un abîme immense. cet abîmement s'ouvre sur un autre abîme, l'abîme appelant l'abîme à la voix de ses cataractes continuellement, continuellement, comme dit l'écriture, et s'écoulant délicieusement, continuellement, dans des étreintes implacables. Oui, car en effet, si c'était le cas, viendrait un moment où nous toucherions Dieu à la borne. C'est sûr. Mais l'infini n'a ni borne dans la manière d'exister à sa substance, ni fond, ni rivage. Les heureux marins de ce séjour fortuné, voguant dans un abîme incommensurable de lumière et d'amour, ne crieront jamais comme Christophe Colomb, « Terre, terre !» J'ai trouvé la limite de l'océan. Ils diront « Dieu, Dieu toujours, Dieu encore, éternellement !» Ce seront de nouvelles perfections qu'ils chercheront à saisir éternellement, des délices plus purs et plus intenses, toujours plus enivrantes qu'ils aspireront à goûter, savourer. Dieu, ils seront tout à Dieu, il n'y aura que Dieu, de gloire en gloire, de joie en joie, d'allégresse en allégresse, car dit Saint Grégoire de Nice, le bienfini n'a ni borne et le désir qui provoque sans mesure. Et la vision, la connaissance de Dieu dans la lumière de gloire suffiront évidemment, largement, totalement, absolument à l'homme pour sa béatitude complète et consommée. Et cependant, il surabondera dans une béatitude qui débordera en dehors de la lumière de gloire, dans le ciel de la Jérusalem céleste. Ce que nous verrons demain, c'est qu'au ciel, il y a deux béatitudes qui n'en font qu'une seule, la lumière de gloire, mais aussi une autre vision, une autre charité, une autre béatitude, un bonheur quasi infini. Alors, comment ça se fait que tu sois sauvé, hein? Ah, il dira, on discutait au Khrouchtchev, et on verra cette espèce de lumière de gloire qui prend Khrouchtchev, qui, à sa manière à lui, ça sera une caractéristique étonnante. Et le seul fait de voir la béatitude, la gloire de Dieu tout entier, hein, il y a une manière de découvrir Dieu que je ne découvrirai jamais, et une béatitude qui rend Dieu infiniment plus désirable. Et la communication qu'il en a se communiquera à moi-même. Oh, la croûte de chef, alors là, je veux dire, il ne s'en doutait pas. Hein. Ça suffit. C'est beau, hein? Donc, il y a la béatitude, on appelle ça, ça faut savoir par cœur, vous avez la lumière de gloire, lumière de gloire, ça veut dire, c'est la béatitude, c'est le ciel. Je voulais écrire intra verbum. Béatitude, béatitude intra verbum. À l'intérieur de la personne du Verbe de Dieu, et donc de la personne du Père, et donc de l'aspiration. Aspiration infinie, visible, vivante de l'Esprit Saint. Et il y aura au ciel aussi une béatitude extra-verbum, parce que le Verbe intègre la chair glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ, et intègre la chair glorieuse de l'Immaculée Conception, et intègre la chair glorieuse de Joseph, du Papa, et intègre la chair glorieuse de Khrouchtchev, et intègre la chair glorieuse du Lys, qui était porté par Joseph, le jour de ses fiançailles, et intègre la chair glorieuse de l'âne qui a porté Joseph, et Jésus, Marie et Bethléem. Extraverbum. Intègre tout l'univers rempli de gloire, dont ce que l'on recevra comme une. Qu'on recevra, chacun de nos frères sera reçu comme une nourriture et on vivra ce qu'ils vivent intérieurement. La charité fraternelle extraverbum sera une béatitude invraisemblable. Des torrents de volupté. L'artifice continuel. C'est magnifique, ça. N'est-ce pas? J'ai pitié de vous. J'ai pitié de vous, parce que il faut vous dormir bien, parce qu'il faut avoir quoi. Il va falloir quand même que Gabriel nous emporte dans sa voiture. Il fait 1000 km, c'est beau, hein, on sera séparés de la distance de l'Immaculée Conception. Il va parcourir l'Immaculée Conception, ça veut dire qu'on ne sera pas séparés. L'Immaculée Conception ne sépare jamais personne. Et c'est ce que je dis toujours, quand je suis dans mon hermitage, j'emporte le monde dans mon hermitage, et quand je suis dans le monde, j'emporte mon hermitage avec moi. Ça, c'est pareil. Porte ma cellule avec moi,